Le journal est présenté par Kevin Dufraîche.
Bonjour à tous. Fin de partie pour Joseph Muscat, le premier ministre de l'île de Malte, quittera ses fonctions en janvier prochain. Il est soupçonné d'ingérence dans l'enquête sur l'assassinat d'une journaliste maltaise en 2017. Nous irons en Allemagne dans ce journal où la grande coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates semble fragilisée après la victoire en interne de l'aile gauche du SPD hier. Et puis la journée internationale de lutte contre le sida. Aujourd'hui, la situation s'améliore en France grâce aux nouveaux traitements, mais il faut maintenant les rendre accessibles à toutes les populations, notamment aux migrants. La pression était trop forte autour de Joseph Muscat, le premier ministre maltais, va démissionner, une information qui provient de l'intérieur même du parti travailliste qu'il préside. Joseph Muscat est soupçonné d'interférence dans l'enquête sur l'assassinat en 2017 de la journaliste Daphné Caruana. Cette démission annoncée, c'est l'épilogue d'un long feuilleton judiciaire où entrepreneurs et responsables politiques sont impliqués. Olivier Poujade.
Cette semaine, le chef de cabinet de Joseph Muscat a été contraint de quitter son poste à la suite d'une convocation par la police pour être entendu dans le cadre de l'enquête sur la mort de Daphné Caruana, cette journaliste blogueuse tuée le 16 octobre 2017 alors qu'elle enquêtait sur des affaires de corruption au plus haut niveau de l'État. Keith Chambry, le directeur de cabinet, interrogé car il a lui-même été cité par l'homme d'affaires Jürgen Fenech, arrêté la semaine dernière et considéré par la famille de la victime comme le ou l'un des commanditaires de l'assassinat. Lors de son interrogatoire, Fenech a désigné Chambry comme le vrai commanditaire de l'assassinat. Après les démissions des ministres du tourisme et de l'économie, une grande partie du pouvoir maltais est aujourd'hui en train de vaciller jusqu'au premier ministre Joseph Muscat, accusé lui de protéger son fidèle bras droit Keith Chambry. C'est au terme vendredi d'un conseil des ministres particulièrement mouvementé, à l'occasion duquel une mesure d'immunité en faveur du milliardaire Fenech a été rejetée, que des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour réclamer la démission du premier ministre Joseph Muscat, aujourd'hui cerné par la pression populaire et par une enquête qui semble mettre au jour l'implication directe de son premier cercle dans l'assassinat de Daphné Caruana.
Joseph Muscat a réuni en urgence son gouvernement ce matin et il devrait annoncer dans les prochaines heures que des élections pour la direction de son parti auront lieu le 18 janvier. La nouvelle commission européenne présidée par Ursula von der Leyen entre officiellement en fonction aujourd'hui. Sur franceculture.fr, vous retrouvez une présentation de cette nouvelle équipe et des grands chantiers qui l'attendent, comme la protection des données personnelles sur Internet. Hier, la commission a annoncé que les autorités européennes enquêtaient en ce moment sur les pratiques de Google en matière de collecte de données. En Allemagne, c'est peut-être un coup dur porté à la coalition entre sociaux-démocrates et conservateurs. Hier avait lieu l'élection interne du SPD, le parti social-démocrate. Le vice-chancelier Olaf Scholz a été battu. Et Nathalie Versieux, c'est un tandem critique envers la coalition avec Angela Merkel qui va désormais prendre les rênes du parti.
C'est l'aile gauche du SPD qui prendra les rênes du parti dans une semaine. Le tandem formé par Saskia Esker et Norbert Walter-Borjans s'est imposé face au duo mené par Olaf Scholz, pourtant seul poids lourd du parti en lice. Walter-Borjans, chef d'orchestre de la lutte contre l'évasion fiscale dans son land de Rhénanie du Nord-Westphalie où il a été ministre des Finances pendant des années, s'est fait connaître dans le pays en multipliant les achats de CD volés à des banques suisses ou du Liechtenstein. Aujourd'hui, il est surtout connu pour son scepticisme à l'égard de la grande coalition avec Angela Merkel. L'élection de Norbert Walter-Borjans et de Saskia Esken n'est pas une bonne nouvelle pour la chancelière. Le futur nouveau patron du SPD pourrait demander la semaine prochaine, lors du congrès aux militants, de se prononcer pour ou contre la poursuite de la grande coalition. L'issue du vote serait des plus incertaines.
Nathalie Versieux à Berlin pour France Culture. En bref, au Gabon, l'ancien porte-parole de la présidence a été placé en détention provisoire. Il est soupçonné de complicité de détournement de fonds publics. Cet ancien proche du président Ali Bongo est donc à son tour touché par la vaste opération anticorruption lancée il y a près d'un mois dans le pays. C'est une première en Irak. Un tribunal a condamné à mort un officier de police accusé d'avoir tué des manifestants. Depuis le début des manifestations contre le pouvoir en Irak le 1er octobre, 420 personnes ont été tuées selon un décompte de l'AFP. Le gouvernement est en séminaire aujourd'hui autour du Premier ministre Édouard Philippe pour se coordonner à 4 jours de la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. La réforme se fera, voilà ce que dit Gérald Darmanin ce matin dans le journal du dimanche. Sur les difficultés annoncées jeudi, notamment dans les transports, le ministre de l'Action et des Comptes Publics en charge du dossier des retraites est clair. Je ne veux pas une prise d'otage pendant des semaines. Fin de citation. Et il annonce le dépôt du projet de loi pour le début de l'année 2020. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour la première fois depuis 10 ans, le nombre de contaminations baisse en France, moins 7% entre 2017 et 2018. Une amélioration attribuée à la PrEP, ce traitement préventif contre le VIH, apparu chez nous il y a 3 ans. C'est une pilule qui permet aux séronégatifs de ne pas être contaminés. Plus de 20 000 personnes l'utilisent en France. Mais le nouveau défi, c'est désormais de toucher d'autres populations à risque, notamment les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Jean-Michel Molina est chef des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Vous savez qu'en Afrique subsaharienne, l'épidémie du VIH est une épidémie généralisée. C'est-à-dire que la transmission se fait d'homme à femme, de femme à homme, de façon très large. Les personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, pour un certain nombre d'entre elles, arrivent en France et sont déjà infectés par le virus du sida. Mais comme ces populations souvent restent dans leur milieu, ce sont des personnes qui ont des rapports avec ces populations qui vont pouvoir s'infecter.
Est-ce que c'est plus compliqué d'atteindre cette population-là pour la prévention par la PrEP ?
Je crois que c'est plus difficile, mais surtout il faut du temps. Lorsque nous avons démarré les premiers essais de PrEP en France en 2012, nous avions mobilisé des associations de patients déjà en 2008. Donc il a fallu déjà plusieurs années pour expliquer ce que l'on fait. Et c'est la même chose avec les populations migrantes, c'est que maintenant que nous avons la démonstration que la PrEP fonctionne non seulement à l'échelon individuel, mais à l'échelon d'une population. Il faut mobiliser aussi le milieu associatif qui peut avoir la possibilité justement d'expliquer ce que c'est que la prévention du VIH, car il ne suffit pas d'avoir un outil efficace comme la PrEP, il faut informer les personnes l'existence de cet outil, et puis aussi des situations dans lesquelles il faut qu'elles puissent l'utiliser. Trop de personnes, y compris des médecins d'ailleurs, ne savent pas qu'on dispose en France de cette nouvelle méthode de prévention du VIH qui est la PrEP, qui est en plus remboursée et qui donc, bien sûr, nécessite un suivi régulier chez le médecin, mais qui est quand même un moyen extraordinaire de se protéger du VIH si on ne peut pas ou si le partenaire n'utilise pas régulièrement de préservatif.
Jean-Michel Molina au micro d'Antoine Marette. Être plus efficace face aux nouvelles menaces, la cyberdéfense française veut passer à la vitesse supérieure. Le projet de cybercampus français a été lancé cette semaine à l'initiative du Premier ministre. Un rapport a également été commandé. L'idée, c'est de regrouper tous les acteurs, start-up, grands groupes, publics, privés, civils, défense, dans un même endroit. Maxime Tellier.
Les risques en matière cyber sont de plus en plus grands. Tous les experts le répètent, qu'il s'agisse de criminalité, d'espionnage ou même d'actes de guerre, nos sociétés sont aujourd'hui ultra connectées et nos systèmes d'information sont des cibles. Michel Vandenberg est chargé de rédiger ce rapport. Il dirige aussi la cybersécurité chez Orange.
Les pirates s'organisent, sont de plus en plus industrialisés. Donc en face de ça, il fallait qu'on puisse mettre en commun notre expertise pour mieux se défendre. Partager pour pas subir, je dirais, c'est un petit peu la devise du campus. C'est au plus on pourra mettre ensemble toutes nos expertises, ce qu'on a développé en termes de marqueurs, de traceurs pour pouvoir détecter les attaques, le faire ensemble, au plus on protégera la nation et les entreprises françaises.
Et l'idée est de s'inspirer de modèles déjà existants, de cybercampus en Israël, la ville de Beersheba par exemple, ou encore la Silicon Valley aux États-Unis. Guillaume Poupard est le directeur général de l'ANSSI, l'agence de cybersécurité française.
Pendant une attaque, immédiatement, il faut être capable de mettre dans un même lieu des représentants de la victime, des représentants de l'État, notamment de l'ANSSI, des représentants d'autres capacités, notamment judiciaires, et puis des représentants des industriels capables d'apporter des solutions, que ce soit des produits ou des services, pour simplement aider la victime. Aujourd'hui, ce lieu, il n'existe pas.
Et ce lieu devrait être créé à Paris d'ici un an, au plus tôt, là où la plupart des entreprises du cyber sont déjà présentes, avec des écoles qui voudraient s'y installer pour attirer de nouveaux étudiants, qui boudent aujourd'hui la cybersécurité. Beaucoup de grands groupes veulent y installer également leurs équipes de recherche. Le secteur du cyber est en forte croissance économique. Il y a donc de la place pour tout le monde, même pour des groupes qui sont par ailleurs concurrents. Et pour l'État, c'est aussi un moyen de s'appuyer sur le secteur privé en cas de cyberattaque majeure. Le privé doit être capable de se défendre seul. L'ANSSI ne pourra pas être partout.
Le rapport sur le cybercampus français doit être rendu à Édouard Philippe mi-décembre. Il avait dirigé 3 fois l'orchestre philharmonique de Vienne pour le prestigieux concert du Nouvel An. Le grand chef d'orchestre letton Maris Janssens est mort aujourd'hui. Il avait 76 ans. La météo, 5 départements du sud-est en vigilance pluie et inondation. Aujourd'hui, il va beaucoup pleuvoir donc dans le sud-est. Cet après-midi, ailleurs, c'est grisaille généralisée sauf dans le nord-ouest. Et puis, il neige dans les Alpes dès 500 mètres. Neige en pleine aussi, 2 à 5 cm des Ardennes à la Moselle cet après-midi. Les températures iront de 2 à 5 degrés au nord, de 9 à 19 au sud. C'est la fin de cette édition plus courte que d'ordinaire en raison de la grève à Radio France. Préparée aujourd'hui avec François-Charles Domergue à la technique Jacques Hubert. À suivre sur France Culture, Marc Weitzmann et ses signes des temps. Aujourd'hui, on parle de Martin Scorsese et Netflix.